Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Un autre live, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? On a commencé avec Karim cette semaine, là, avec Jonathan. Un bon matin, ça fait toujours plaisir d'être là. Écoutez, on parle bien évidemment, écoutez, c'est le D-Day, c'est le jour J. Le budget fédéral 2024, hashtag vous êtes dans le trou. Non, pas les politiciens, les autres sont sur la colline. Fait qu'on en parle ce matin en Toute Liberté. Salut Joe.
Salut.
Ouais. Fait que surpris, pas surpris, là, mais disons que c'est ça. On voit que déconnecté de la réalité, je trouve que c'est faible comme mot pour présenter ce gouvernement-là. J'ai plus quoi dire personnellement. On dit qu'on a tout lancé les pâtes de spaghettis sur le mur. Et le mur est rempli de spaghettes. On sait plus trop quoi lancer.
Non, écoute, c'est assez ahurissant de regarder ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que la seule question qu'on se pose aujourd'hui, essentiellement, c'est le déficit va être à quelle profondeur. Hein, tu sais, parce que normalement, tu sais, il y a des petites choses qui peuvent couler un peu dans les médias. Ah, dans le budget, ils vont annoncer telle affaire. Mais franchement, dans les dernières semaines, là, ils ont fait un effeuillage. Là, c'était carrément un striptease. Là, de... Puis, tu sais, zéro. Ouais.
On enlève un morceau à la fois, puis c'est ça.
Puis tu sais, moi, je me suis fait la réflexion, puis tu sais, c'est un peu les mêmes règles parlementaires, tu sais, à la Chambre des communes qu'à Québec, mais tu sais, il y a un principe important que quand tu déposes un projet de loi, puis un budget, essentiellement, c'est quand même un projet de loi, là, à la fin de la politique budgétaire du gouvernement, il faut que les premiers qui s'en soient saisis, ce soit les parlementaires par respect pour l'institution, puis si c'est pas fait, il peut avoir des procédures pour plaider qu'il y a un outrage au Parlement. Alors, je trouve, à Québec, souvent, ils sont plus rapides sur la gâchette pour plaider qu'il y a un outrage au Parlement, mais moi, je serais pas surpris qu'on voit ce type de procédure-là se plaider dans les prochaines semaines, parce qu'écoute, on n'est pas allé avec « Ah, cette information-là a fuité », on est allé avec un gouvernement totalement décomplexé, qui, à jour après jour, faisait des annonces essentiellement dans des champs de compétences qui n'appartiennent pas. Puis la seule annonce essentiellement qu'ils ont faite dans leur champ de compétences à eux, c'est une petite annonce en matière de défense qu'ils ont fait exprès de faire la journée de l'éclipse solaire pour être certain que personne n'allait en parler.
Alors, tu dis, ils sont servis de l'éclipse pour éclipser leurs nouvelles, il n'y a pas plus classique.
Puis, tu sais, on s'entend, là, si tu regardes la litanie de mesures qu'ils ont annoncées, la seule vraiment là, qui dit OK, là, on est vraiment dans leur carré de sable, dans les compétences fédérales, c'était bien elle en matière de défense, mais encore là, ils n'ont même pas été capables de se rendre aux 2% du PIB qui est normalement exigé par l'OTAN. Fait que, tu sais, c'est problématique. Puis, moi, ce qui me. Sur un note plus global, tu sais, on est rendu vraiment avec des politiciens qui sont dans les étiquettes, puis les médias embarquent là-dedans, mais on n'a même plus la rigueur intellectuelle de vérifier si les étiquettes sont vraies. Puis moi, une des choses qui m'agresse le plus dans les articles de presse que je lisais ce matin pour voir qu'est-ce qu'ils disent sur le budget qui s'en vient, tu sais, ils recitent le gouvernement pour dire que ça va être le budget de l'équité intergénérationnelle. Mais je veux dire, il y a bien quelque chose qui entre de plein fouet dans le principe de l'équité intergénérationnelle, c'est toujours bien les déficits puis les espèces de « on met tout sur la carte de crédit, puis on pèle par en avant ». S'il y a bien quelque chose qui fait mal à l'équité intergénération, c'est bien ça. Mais non, on est dans le coup-l'œil, puis le premier ministre dit ça, puis ça regarde bien.
C'est comme si Christophe Rayleigh arriverait qu'un lance-flamme et dit « ça, mesdames et messieurs, c'est le budget de l'hydratation ». C'est « what the fuck ». Ah non, puis ça, sérieusement, puisque ce qui est capoté surtout, c'est autant qu'on le sait depuis longtemps, on le voit, puis il y a eu différents exemples. Je sais que Dominique Dumas à Chouet a fait beaucoup de montage là-dessus. On a une classe médiatique en grande majorité, puis regarde, je dis pas que je suis meilleur. Moi, tous les maths, personnellement, ça n'a jamais été ma matière préférée à l'école, je le reconnais. Mais on a une classe médiatique qui se contrefout de l'économie, puis qui à toutes les fois, même, je me rappelle, Patrice Roy, Sébastien Bovet, puis une couple d'autres, il y avait des commentaires disant « Là, les seuls jours que j'aime pas dans ma carrière de journaliste, c'est les jours du budget, parce qu'à la fin des journées, j'ai toujours mal à la tête, parce que je comprends pas trop ce qu'ils se disent. » Fait qu'il y a tout le temps le genre de réflexe que, par défaut, ils trossent le ou la ministre des Finances qui disent, puis ce qui amène. Ils challenge pas trop, ils voient les gros chiffres, ils font des gros titres d'articles avec ça sans trop comprendre pourquoi. Ils comprennent le principe de la dette, mais en bout de ligne, ça reste un chiffre. Là, tu sais, c'est pas, c'est comme Astral dans le néant distordu. Fait que c'est pas plus pire que ça, alors que c'est extrêmement grave. Là.
Mais non, puis t'as tellement raison. Puis en plus, on pouvait pas avoir un meilleur exemple là, l'autre semaine à quel point les journalistes et l'économie. Regardez, avec la visite du premier ministre français qu'on a eu. Là. Moi, j'ai trouvé honnêtement que ça faisait... Moi, je voyais la classe médiatique là, être en extase. C'est extraordinaire. Ils ont rappelé la langue puis la culture. Moi, honnêtement, là, j'ai trouvé qu'on faisait ticoun. On a reçu le premier ministre de la France. Quand tu écoutes la façon qu'ils s'expriment puis leur discours, tu te rends compte qu'on est vraiment à culotte courte avec les politiciens comme François Legault puis Marc Tanguay puis ce gang-là. Puis tu sais, ils auraient tellement pu parler genre d'économie. Tu sais, à ce moment-là, il y a des enjeux au niveau de l'accord de libre-échange avec la France, etc. Non. Puis les conseillers du premier ministre français, ils ont dit « Mais parle pas d'économie dans ton discours, ça les intéresse pas. Parle-leur de leur langue, de culture, parle-leur des plaines d'Abraham. » Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je trouve vraiment qu'on est...
Okay. Alors, surtout que le discours qu'il a donné, j'ai vu des bribes, je l'ai pas écouté au complet, mais c'est un discours qui date d'au moins 40 ans. Là. T'sais, la nationalisation de l'électricité, ça commence à dater en calvaire. Puis le Québec qui se tient debout puis qui ne prend pas le non comme une réponse, comme tabarouette, c'est plus un discours que même, je vais le dire, le général de Gaulle l'aurait pu dire, mais là, on n'est plus là pas à tout, là.
Puis, en plus, moi, je trouvais, si tu regardes un peu, là, parce qu'ils mettent souvent des images en filigrane de l'Assemblée, moi, j'ai trouvé, premièrement, j'ai fait deux constats. Premièrement, les députés, ils ne savent pas se tenir. La moitié était évachie dans le
champ. Ben oui! Regarde, je vais pour le principe, là. T'es à Gabriel Attal, président français, puis t'es comme...
Non, mais je m'étais sérieux, là, je veux dire.
T'es à l'Assemblée nationale, chose!
T'es pas d'une bassine à l'hôpital, là, je veux dire, redresse-toi, puis là... Puis j'ai remarqué aussi qu'il manquait énormément de députés. Hein. J'ai trouvé que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, là, il n'y a pas de chaise de lousse à l'Assemblée nationale. Il y a 125 sièges pour 125 personnes. Puis il y avait énormément de sièges de disponibles, de vacants. Puis aux dernières nouvelles, je sais qu'actuellement, il y a deux députés qui sont un peu en arrêt maladie pour des raisons, là, mais au-delà de ça, les autres étaient où, là, tu sais? Puis je voyais que Québec solidaire ont boudé essentiellement le discours parce qu'il y avait une activité politique dans Taschereau, tu sais. Fait que tu dis... Tu regardes les chaises, là.
Ben, autant que les libéraux, je suis plus ou moins surpris, tant des fédéralistes, malgré que ça reste un premier ministre étranger. Là, tu te pognes Paul Bank, tu te présentes, là, à moins d'avoir une raison, justement, de santé ou whatever. Ou t'es vraiment, je sais pas, t'es en mission comme Martine Biron en Corée du Sud ou whatever. Là. Mais non, c'est ça, c'est...
Et moi, j'ai aimé, je regardais à Radio-Canada des analyses, puis je me souviens pas lequel, il y en a un qui était bien outré, là, que les députés solidaires se soient pas présentés, puis ça prend respect envers les élus, d'ailleurs, etc., puis je suis bien d'accord avec ça, mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit, puis c'est pas une possibilité qui est très improbable, là. C'est quand même dans le domaine du possible. J'ai dit, mais si d'ici quelques années, la présidence de la République française est occupée par Marine Le Pen, est-ce qu'on va l'inviter à l'Assemblée nationale du Québec à faire le respect pour les gens détenant des titres, des fonctions, on va prendre le bord. Tu sais, je trouvais ça un peu hypocrite.
J'aimerais ça juste pour le principe d'avoir un deuxième round entre elle et Anne-Marie Dussault. Là. Ça a tellement été une pièce d'anthologie quand elle l'avait ramassée de manière magistrale. Ah, oh, c'était quelque chose.
Alors, je trouve des fois, sur le principe, je suis 100% d'accord avec eux. Moi, je pense que quand on reçoit des gens qui ont des fonctions officielles dans d'autres pays puis qu'on a moindrement de respect pour la démocratie, on les reçoit. On écoute ce qu'ils ont à dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est correct, mais je trouvais juste ça un peu, j'avais un petit sourire en coin, puis je me disais, s'il fallait que autant Trump aux États-Unis revienne à la présidence, ou que Marine Le Pen, par exemple, accède à la présidence de la République française, j'ai comme l'impression qu'il y a des invitations qui ne se rendront pas à leur bureau. Là,
que... Ah, puis surtout en plus, on a entendu Étienne Grandmont, Québec solidaire, la semaine passée, dire que le gouvernement de Macron, c'est un gouvernement de droite. Là. C'est comme...
Ben oui, mais tu sais, si chose, là, Mélenchon venait faire un discours ici, ça serait
des petits... Ah oui!
Courir pour un autographe. Alors, tu sais, on... On est dans le Kool-Aid, là. Puis, tu sais, ici, on s'entend au Québec, là, quand on décrit la droite, là, ça me fait toujours bien rire. Il y a quel... Tu sais, au Québec, il n'y a pas vraiment de droite, là. On est à l'extrême gauche, à gauche, puis au centre-gauche. On est très peu à droite au
Il y
Québec.
a juste, au niveau de l'identité que je dirais que là, il y a un peu plus de droite, mais encore là, c'est pas la même droite que nous autres, majoritairement parlant, là. Ah non, t'as absolument raison. Puis c'est maudit que je ne vais pas nécessairement copier les mêmes propos, mais il était vraiment sur le bullseye. Il m'aurait dit, c'était vraiment colonisé. Là. C'était vraiment le représentant de la métropole qui visite la colonie. Puis il s'en va, on lui donne 2-3 livres, comme si on donnerait 3-4 coups de castor avec un écuel en argent. Puis let's go. T'sais, j'avais vu, puis j'en ai parlé avec Samuel Rasmussen dans le débrief hier, mais je vais quand même t'en parler un peu. T'sais, j'avais vu passer un short, je pense que c'était de François Legault, justement, ou de l'Assemblée nationale, puisque tu le sais autant que moi, que quand il y a des visites de dignitaires étrangers, ils ouvrent la grande porte principale en dessous de la tour du Parlement, parce que c'est la seule fois qu'ils s'en servent de l'entrée principale de la SNAT, c'est justement quand il y a des dignitaires étrangers qui passent. Puis là, tu voyais Legault puis Attal monter l'escalier. Là, tu vois Legault avec sa grande chasse de mononcle content. Puis tu l'attendais un peu. La dernière marche, il est comme... L'Assemblée nationale. T'sais, comme, il présente ça comme ça serait son gendre qui ferait visite du Parlement. T'sais, c'est le premier ministre de la France. Là, t'sais, je comprends qu'il est jeune, puis il est pas. T'sais, c'est pas un genre de Pompidou ou whatever, mais ça reste que. T'sais, même moi, là, qui serais content d'avoir un dignitaire venir ici, je serais pas qu'un grand sourire de Joker d'en face de main. Oui, je serais content, mais je serais quand même sérieux. Hey, bienvenue, merci, voici, nanana. T'sais, il y a comme un genre de. Il y a une certaine forme de prestance que j'ai l'impression qu'on. En tout cas, pour Lego en tant que tel, on n'a pas, qui manque. Puis encore, je trouvais qu'il y avait encore un peu son style un peu, passe-montagne, qui parle comme un enfant, comme s'il parlerait des enfants de 5 ans. Là. Fait que, en tout cas, moi, c'est ma vision personnelle à moi là-dessus. Là.
On souhaite de la visite, là, puis c'est comme si on a l'air d'aller recevoir de la piquette et du ballonné. Je veux dire, on n'a pas. Tu sais, en plus, on a des partis là-dedans qui veulent faire un pays, là, mais je suis comme, OK, mais la diplomatie, on ne l'a pas. Je trouve qu'on fait groupie. Il est censé avoir un certain décorum dans ces choses-là. Puis, tu sais, je trouve que... Tu sais, déjà, là, juste quand... Moi, j'ai trouvé là, que ça avait l'air, là, un peu, là, si tu as des frères et sœurs, là, comme, j'ai trouvé que ça avait l'air des enfants qui chicanaient devant la gardienne pour avoir raison, tu sais. Puis là, tu as comme oui, mais là, tu sais, il y en a un qui parle de la souveraineté, puis le grand soir, puis... Il me semble que tu ne fais pas ça. Quand tu reçois quelqu'un qui est à la tête d'un État là, ou quelqu'un qui a des fonctions importantes comme premier ministre en France, tu essaies d'aborder dans ton discours des éléments qui ne mettront pas l'invité dans une position délicate au niveau du
diplomatique. Non, c'est ça. Tu ne veux pas de la politique partisane quand il y a une rencontre de dignitaires. Ça, c'est une des règles non écrites primordiales quand tu reçois de la visite d'extérieur. C'est justement pendant ce bout-là, vous farmez vos on part les chicanes après. Là,
ils ont fait tout le contraire. Si tu écoutes les discours qu'ils ont fait, puis tu sais, tu vois que le premier ministre de la France a bien beau être jeune, tu vois qu'il savait comment ça marchait parce qu'il était assis dans son fauteuil, mal à l'aise. Puis à chaque fois que, mettons, je ne sais pas, moi, François Legault disait quelque chose, peu importe, tu sais, il allait regarder autour, voir, OK, si tout le monde applaudit, j'applaudis, dans le sens que c'est consensus. Mais des fois, tu voyais juste la CAQ qui applaudissait, les libéraux qui boudaient un peu. Fait que là, tu vois, le premier ministre, c'est pas trop, j'applaudis plus, j'applaudis pas. Tu ne fais pas ça quand tu as du respect diplomatique. Mais encore une fois, j'ai trouvé qu'on faisait cantine de village. Je suis comme, il y a un monsieur avec un chapeau de couleur, on s'amuse. Fait que,
c'est primordial que quand tu fais un discours, justement, relié à l'international, que tu ne rentres pas ta propre partie. Tu peux mettre des petites pointes, là, mais il ne faut pas que ça paraisse trop, puis que ça soit convivial puis consensuel en bout de ligne. Mais jamais... Tu fais un discours ultra-partisan, surtout pas quand il y a une visite de dignitaire. Et même moi qui... Écoute, j'ai même pas de bac en Sciences Po, puis je le sais, ça. Puis le premier ministre n'a pas l'air de pas le savoir. Puis écoute, je veux quand même t'entendre sur un autre sujet. Mais en parlant un peu, on va revenir sur le budget, parce que c'est ça, un peu le truc de l'épisode un peu, mais on va en parler grandement. Mais il y a un extrait qu'on a passé dans Yann et Frank hier, mais qui a passé à Morin vendredi passé, sur l'armée canadienne. C'est un ancien major de l'armée qui avait commenté un peu ce qui se passe en armée, puis c'est en pleine décrépitude, puis je voulais juste t'entendre puis de réagir là-dessus.
Puis on s'est lancé dans un virage à gauche, une espèce d'expérimentation sociale où on a dit, bon, ben les militaires, à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous peindre les ongles, vous allez pouvoir porter les cheveux longs, teindre vos cheveux, avoir des tatous au visage. Les hommes pourront porter la jupe s'ils sentent hommes cette journée-là ou pas, ainsi de suite. Ça, ça a eu un énorme onde de choc à l'intérieur des Forces armées canadiennes. Des distributrices de tampons dans les toilettes des hommes sur les bases militaires, ça ne passe pas. Alors, puisque nos militaires ne sont pas des militaires conscrits, ils votent avec leurs bottes. Ils quittent.
C'est ça, c'est qu'il parlait qu'il manquait autour de près 15 000 personnes dans les Forces canadiennes au minimum. Puis j'ai entendu aussi plusieurs bribes. Là, l'histoire que les entraînements, le basic training qu'on fait, supposément que ça a été considérablement réduit le temps d'entraînement, que les exercices à balles réelles ont été réduits à cause du manque de munitions. Alors, on est vraiment rendu broche à foin. Là.
Ben, c'est un manque de respect total envers les Forces armées canadiennes. C'est aussi une crédibilité à l'international qui est affectée par tout ça. Au-delà là, des stéréotypes, peu importe, tu sais. Si tu veux avoir un synonyme normalement, tu sais, de discipline, de rigueur, d'avoir des protocoles, c'est bien dans les forces armées. Puis là, on est rendu qu'il n'y a plus aucun protocole qui tient. Il n'y a plus aucune procédure là, qui tienne pour les sensibilités de tous et chacun. C'est le wokisme qui était dans les universités qui, on pensait, que se rendrait peut-être pas dans des institutions comme les bases militaires, mais force est de constater que c'est rentré par la grande porte. Moi, je trouve ça déplorable parce que, écoute, ça décourage les gens, effectivement, de se lancer dans les forces armées. Ça décourage les gens qui sont dedans de rester dans les forces armées. Puis on perd notre crédibilité à l'international. Moi, je pense qu'il va falloir revenir avec de la rigueur, avec de la discipline, puis avec des protocoles. Puis, tu sais, je veux dire, le temps là, des toilettes mixtes, je veux dire... C'est pas dans l'armée. Là. Fait que moi, je comprends ce qu'il dit, puis je trouve que ça n'a pas sa place, mais en même temps, je peux pas faire comme si j'étais surpris. Là. Je veux dire, on a fait lancer un programme en Ukraine en mettant ça à la sauce non-binaire. Là. Je sais plutôt comment ça s'appelait.
Oui, c'est un problème de un programme de déminage non-genré. Ou pro-genre, ou whatever. Là, t'sais.
Ben,
t'sais, en gros, c'est des soldats ukrainiens non-binaires vont pouvoir déminer des mines en toute sécurité avec le patch Rainbow Flag. Là. Tu sais, c'est spécial.
Mais c'est rendu ça à toutes les sauces. Je veux dire, il y a deux choses. Tu sais, il y a comme des mots-clés. Là. C'est comme quand tu es correcteur d'un examen à l'université. Là, je veux dire, tu as des mots-clés. Là, tu vois si les mots sont dans l'examen et ça te donne des points. Là. Ben, c'est un peu ça. Là. Les mots-clés, c'est essentiellement tout ce qui a trait à 2LGBTQ+, WXYZ. Puis, tout ce qui est changement climatique, crise climatique, urgence climatique. Ça, c'est un peu les deux axes. Tu as ça, tu as le droit à des subventions. Tu sais, je me souviens récemment, il y avait un programme dans le monde agricole pour justement là, donner des subventions pour faire en sorte que tu puisses migrer vers des technologies ou de la machinerie qui est moins polluante, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si dans ton formulaire de subvention, tu cochais que tu étais un membre de la communauté 2LGBTQ+, tu avais une bonification de 40% de ta subvention. Mais c'est
40%, tabarouette!
À part. Et moi, je disais à la blague... Je
vont partir blague, une ferme?
Non, mais je disais à la blague, cocher. De quelle façon ils peuvent démontrer que vous êtes que vous êtes. Puis là, j'ai dit à cette heure, c'est rendu à la sauce de je m'identifie aujourd'hui comme ça.
Ben oui.
Même si vous êtes un homme hétérosexuel marié avec des enfants, coché non-binaire, vous allez avoir 40% de plus de subvention.
Ben oui, ben c'est comme ceux qui se. Les fameuses bourses d'études pour les universités, les programmes universitaires. T'sais, c'est carrément pour ceux qui s'identifient noirs ou whatever. Parfait, je m'identifie comme autochtone du jour au lendemain, puis ça va marcher. Ah, on a eu plein d'exemples de ça.
C'est vraiment rendu et étendu dans la société. Là. Je veux dire, regardez les affichages de postes dans les grandes institutions ou les profils. On est rendu vraiment à cette sauce-là. T'sais. Puis à un moment donné, c'est parce qu'on accepte ça comme société. Mais moi, je pense qu'on arrive à certains points à mener un point de rupture, comme là, l'exemple que vous avez dans l'armée canadienne. Moi, je pense que ça ne pourra pas tenir dans une institution comme les Forces armées canadiennes. On va revenir essentiellement. Puis il y a une affaire que moi, ça m'agresse, c'est que, tu sais, il y en a qui, on s'entend, après ça, ils essayent de te faire passer d'homophobe ou de toutes sortes de choses, mais sais, moi, je me souviens encore, il y a quelques années, j'étais fier, tu sais, mettons le 17 mai, qui est la journée internationale contre l'homophobie. Tu sais, dans le temps où on appelait encore ça seulement LGBT, là.
Ouais. Ouais, la belle époque.
T'sais, je me souviens, tu sais, que c'était des choses que j'étais fier de, tu sais, d'afficher, etc. Mais aujourd'hui, je n'affiche plus rien de ça, le 17 mai. Parce que j'ai l'impression que le drapeau a été assiégé par une gang d'extrémistes qui arrivent avec des théories qui n'ont rien à voir avec l'orientation sexuelle, mais qui sont des sortes de théories. Alors là, puis là, c'est rendu super agressif et polarisant. Tu ne peux pas parler de ça sans te faire traiter de toutes sortes de noms. Alors, moi, je trouve ça préoccupant parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un cancer qui est rendu dans nos institutions, mais de manière large, hein, c'est plus juste dans les institutions gouvernementales. Les institutions privées là, sont rendues beaucoup là-dedans aussi, c'est préoccupant.
C'est partout, puis j'écoutais Christian Dufour qui était en entrevue à Libre Média avec Jérôme Blanchet-Gravel, puis lui tout, il est gay depuis belle lurette, puis il nous contait que lui, il va souvent au Maroc, puis il s'est rendu que même la communauté gay du Maroc, tu veux rien savoir du drapeau arc-en-ciel, parce que pour eux autres, c'est comme un symbole de la décadence de l'Occident, du fameux mouvement. Alors pour vous, c'est même plus un symbole de fierté, de pride, c'est rendu l'inverse. Puis je serais prêt à les croire d'une façon, parce qu'ils collent tellement ça partout. J'ai répondu à un tweet récemment par rapport, je vais juste retrouver ma réponse que j'ai mis. C'était par rapport à une publication il y avait une nouvelle qu'André Arthur au Paradis avait partagée, je vais la mettre à l'écran. C'était une nouvelle de TVA Nouvelle, un conseil municipal vote contre le drapeau de la fierté, c'est en Ontario. Parce qu'il disait justement que ça représente uniquement 2 à 3 % puis que c'est ça. Puis moi, depuis un certain temps, je me dis toute cette grille-là, puis se pousser ça dans la gorge du monde sans vouloir, sans leur consentement, mais ça va créer une nouvelle forme d'homophobie au lieu de faire l'effet inverse. Et j'avais publié cette photo-là qui, selon moi, représente absolument tout. Là. C'est un peu. Personnellement, c'est comme ça que je me ressens. Puis c'est même pas une question que j'aime pas les trans ou whatever. Au contraire, la majorité n'ont rien à voir avec ça. C'est vraiment les plus militants de la gang et les Christie de lobby un peu qui parlent en notre nom sans même pas nous demander notre avis. Comme si toutes les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles seraient toutes de gauche. Puis que du jour au lendemain, personne n'a le goût de juste vivre en paix. Puis que personne nous écœure. Puis sacquez-nous patience. Tu sais, oui, il y a d'autres luttes à faire à travers le monde, puis c'est pas encore tout réglé, mais au contraire, vous allez faire l'effet inverse. J'ai vu une stat récemment, je pense que c'était dans un des podcasts américains que j'écoutais, pour la première fois en 10 ans, l'adhération au mariage gay aux États-Unis a reculé. On était, je pense, à 74 %, ça a baissé à 68 en une année.
Ben moi, comme avocat, je devrais vous dire que l'adhésion au mariage en général devrait reculer, là, mais ça, c'est un autre c'est un autre débat, peu importe le sexe.
Ben, en fait, principalement, c'est plus pour le côté légal du truc. Là, en tout cas, les arguments qu'il amenait, en tant que je ne suis pas trop un expert là-dedans, là, mais le fait justement que si tu étais, mettons, en conjoint de fait avec un autre homme ou whatever, mais tu n'étais pas marié officiellement, mettons, qui était sur son lit de mort, mais tu n'avais comme pas le droit d'y avoir accès ou d'être à son chevet pour son décès, puis justement hériter une partie de son héritage et tout ça. En tout cas, c'était un peu touché, là, on fera pas le débat, bien évidemment, ça a duré longtemps. Mais ça montre que justement, ça fait. J'ai toujours comparé ça au film Forrest Gump, quand Forrest il court jusqu'au but dans le match de football, puis au lieu de s'arrêter après la ligne d'arrivée, il continue de courir, puis il continue, puis il arrête pas. C'est ça, c'est que au lieu au Canada de s'arrêter, qu'on a fait la majorité de la job, puis yes, let's go, à cette heure, on focus peut-être plus sur l'international, aussi qu'il y a encore des places qui lapident ou qui sacquent des gays en dessous des buildings de 8 étages. Ben non, on a continué, puis let's go, les story hours de drag show, let's go, la sexualisation des enfants, puis à un moment donné, c'était too much. Puis même moi, j'embarque pas là-dedans, puis même autant que c'était plus, comment je pourrais dire ça, c'était plus provocateur à l'époque, mais tu sais, l'hypersexualisation de la parade gay, même moi, là, je commence à être un peu mal à l'aise de ça, surtout dans un pays qui est tellement acceptant aujourd'hui. Je pense que ça devrait devenir pas mal plus familial que justement tout de trois quarts du monde habillé en BDSM ou en chess. Puis,
moi là-dessus, je suis très ouvert là, d'esprit. C'est-à-dire, tu sais, à la limite, moi je fais une différence entre une parade ou des activités ou des événements ou peu importe, là, que tu y vas ou tu y vas pas, versus une discrimination positive qui est faite par l'État à même nos taxes et impôts, par exemple, sur la subvention, je t'ai donné l'exemple tantôt en agriculture ou des bourses à l'université qui sont dédiées spécialement. Mais c'est là que là, j'ai vraiment un problème parce qu'on n'est plus dans la sphère privée ou semi-privée. On est vraiment l'État qui essaie, avec l'argent de vos taxes, à enfoncer des choses dans la gorge. C'est là que j'ai plus c'est là que j'ai plus vraiment un problème avec ces niveaux-là. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, tu vas avoir des politiciens, justement, comme Justin Trudeau, qui, eux, sont heureux quand on embarque vraiment dans des sujets comme ça. Puis je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants, mais c'est des sujets qui touchent une marginalité de la population, mais que ça accapare une grosse partie, tu sais, du chroniquage ou des médias.
Ah ouais.
Mais ça fait l'affaire des politiciens comme Justin Trudeau, Chrystia Freeland, par exemple, parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du fait qu'on a des déficits épouvantables, on ne parle pas du fait que les services publics sont pas rendus à la population. L'exercice qu'on a aujourd'hui, c'est un bel exemple. T'sais. J'ai hâte de voir combien de temps on va parler et qu'on va creuser sur le déficit, etc. Mais rapidement, je trouve que t'sais, les médias embarquent dans le bateau. Là. T'sais, tout de suite, là, je vous le dis, là, aujourd'hui ou de demain, le débat, ça ne sera pas le déficit ou ça ne sera pas l'envahissement des champs de compétences par le gouvernement Trudeau. Les médias, je vous fais la prédiction dans les prochains jours, le sujet de l'heure, ça va être où Pierre Poilievre va couper dans
les postes. Médias québécois, j'ai l'impression que le National Post et le Globe and Mail, les autres qui ont encore un peu d'intégrité, ils vont continuer de chiquer le morceau justement des déficits parce que les autres, ils font leur job sur le sens du monde. C'est au Québec, c'est ça. C'est le budget, ils en parlent parce qu'ils n'ont pas le choix d'en parler, sinon il y a l'arrêt d'une gang d'innocents le jour même que ça sort, mais le lendemain, t'sais, à part pour dire que ah, on est dans le trou, puis le surlendemain, on parle de d'autres choses. C'est comme la météo, tu sais. Hein, c'est ça. C'est qu'on traite la finance comme ça serait des événements météo. T'sais. Oh non, dans le déficit. OK. Tu sais, next. Alors qu'au contraire, ça nous arrive tout le temps.
T'sais, c'est comme si on essaie tout le temps de culpabiliser les gens, mais je veux dire, tu sais, de l'inflation, là. C'est pas essentiellement le couple qui décide de se gâter le vendredi puis d'aller au restaurant puis de prendre un verre au restaurant. Là, c'est pas ça là, qui fait que l'inflation part en vrille. T'sais, ce qui fait que l'inflation part en vrille, c'est les gouvernements qui dépensent à coups de centaines, de dizaines de milliards sur la carte de crédit essentiellement, avec aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire, avec des déficits qui sont structurants, qui sont pas ponctuels. C'est ça qui fait une pression épouvantable sur l'inflation, mais qui vient à côté, à la gorge, monsieur, madame, tout le monde, sur le renouvellement hypothécaire et tout. Là. Mais quand on parle de politique, ah, mais là, faites attention là, hein, à qu'est-ce que vous consommez. Il faut partir votre lave-vaisselle à telle heure, alors que on a des édifices gouvernementaux qui sont
allumés
jour et nuit. Il y a une espèce de déconnexion entre ce que le gouvernement a fait et la culpabilisation qu'on essaye de faire des gens. En tout cas, moi, ça me dépasse. Puis, tu sais, je regarde ça aller. Là, en fin de semaine, t'avais le congrès du Parti québécois. Puis là, bon, la souveraineté revient un peu à l'agenda, etc.
Une puis certitude, moi, comme il dit, selon PSPP.
Puis honnêtement, je suis d'accord avec lui, hein, dans la mesure où s'il fallait que, pour une raison quelconque, le prochain, que les libéraux reviennent au pouvoir à Ottawa, un peu dans la même formule. Tu sais, c'est pas la dernière fois. Je comprends que les sondages disent pas ça, mais souvenez-vous, la dernière fois qu'on est allé en élection fédérale, ça a été un copier-coller. Là. Le Parlement est parti en élection, le Parlement est revenu, et c'était pareil. S'il fallait revivre quelque chose du genre, je serais pas surpris, moi, que ça fasse revivre. Parce que, tu sais, à un moment donné, moi, je suis fédéraliste, mais encore faut-il respecter le contrat, qui est la Constitution. Or, on a un gouvernement qui, à mon avis, le plus décentralisateur, mais aussi le plus décomplexé dans sa décentralisation qu'on a eue depuis, je ne m'en souviens pas, là, un autre gouvernement qui a été autant de front comme ça. Habituellement, les gouvernements qui utilisaient leur pouvoir fédéral le dépensaient, essayaient d'être subtils. Ils essayaient de trouver une raison, une défaite. Là, pas en tout. Trudeau, il est allé all-in avec son
job. Bulldozer.
Les citoyens, ça ne les préoccupe pas. OK, mais je disais, toi, comme premier ministre du pays qui devrait avoir la première responsabilité de respecter la Constitution, ça devrait te préoccuper minimalement. Alors, si on continue d'avoir un gouvernement fédéral qui ne respecte pas le contrat fondamental, bien, ça se peut qu'il ne marche pas le pays. Puis là, ça donne, genre, à mon avis, de bons arguments à ceux qui disent, bien, tant qu'à avoir un pays qui ne marche pas, faisons donc table rase et repartons d'autres choses qui vont nous ressembler plus. Ben, je suis en train de penser que Trudeau devient un allié objectif du mouvement souverainiste à ce moment-là.
Ben oui, ça a toujours, historiquement, ça a toujours été le cas. T'sais, le gros méchant régime fédéral, ça a toujours davantage avantagé le mouvement de la souveraineté, majoritairement quand les libéraux étaient au pouvoir. Là, en tout cas, rarement qu'on a vu avec les conservateurs que c'était comme le gros méchant État, autant que ça restait le fédéral, mais c'était quand même moins pire aussi. Mais je suis content que tu l'admets, sérieusement, contrairement à bien d'autres fédéralistes, disons que t'es pas le plus raisonnable, je suis aucunement surpris, bien évidemment, là, mais que c'est ça, parce qu'il y en a qui n'oseraient jamais dire « Ah non, 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 tu sais, jamais dans 100 ans, puis fuck les caribous, puis de ci, puis de ça », alors que, comme tu le dis, tu sais, tant qu'on respecte le contrat, si le fédéral, il se torche avec, ben c'est sûr et certain qu'à un moment donné... T'es comme acculé au mur, puis tu peux pas finir un peu comme le syndrome de Stockholm, puis t'es le syndrome de la femme battue, puis tu te dis, ben, on va continuer pareil. Tu sais, à un moment donné, il va arrêter non. de me frapper. Tu sais, non, à un moment donné, il faut que tu sacques ton camp. Fait que c'est un peu ça, là.
Non, non, puis tu sais, je veux dire, tu sais, si la tendance se maintient, honnêtement, tu sais, le Canada de Trudeau dans lequel on est et on s'enligne, c'est un Canada dans lequel je me reconnais de moins en moins. Ah, moi alors, à un moment donné, je veux dire, tu vas avec l'histoire, puis c'est pour ça, je pense que le Bloc québécois à Ottawa a tout intérêt à maintenir Justin Trudeau en poste le plus longtemps possible, parce que là, ils font peur au monde avec les conservateurs, vous savez, l'avortement, puis les changements climatiques, ben là, mais parce qu'ils savent que foncièrement, les gouvernements conservateurs ont été ceux qui ont respecté le plus les provinces dans leur autonomie. Moi, je disais à des gens, nommez-moi une violation du gouvernement Harper dans les champs de compétences provinciales. Et souvent, il y a un long silence parce que les gens ne sont pas capables d'en trouver. Et pourtant, les médias au Québec ont diabolisé le gouvernement Harper comme si, tu sais, je veux dire...
Ah oui, il donnait des subventions à Suncor, mais il n'en donnait pas à la DV puis à Hydro-Québec. Harper n'a pas favorisé le Québec, c'est payant pour le Canada anglais, puis blablabla.
Puis la seule réponse qu'on m'a donnée, moi, quand j'ai dit, cherchez, là, je vous donne du temps, allez sur Google, trouvez-moi une infraction de compétence du gouvernement Harper. Celle qu'on m'avait donnée, c'était le registre des armes à feu, ce qui est faux, parce que le registre des armes à feu, c'est un registre fédéral. Le gouvernement fédéral avait décidé à l'époque de dire « c'est un registre coûteux, inutile, on met la hache là-dedans ». Puis les gouvernements provinciaux disaient « ben non, nous, on veut qu'il continue ». Puis le gouvernement fédéral, effectivement, a dit non. Mais ce n'était pas un empiètement dans les champs de compétences provinciales. C'est le fédéral qui a décidé de mettre fin à un de ses programmes qui était franchement coûteux et inutile. Alors, bravo!
Yes, sir. Hey, Joe, merci beaucoup. Ça a vraiment été le fun de passer vite. Puis on fait un peu le tour des sujets, mais bien évidemment, souvent c'est ça. Hein, avec on le fait aussi avec José, puis avec Luce et Serge aussi, vu que c'est ça avec le délai des 2 semaines. Souvent, il y a certains sujets des autres semaines que tu as le goût de donner ton grain de sel, puis c'est bien correct. Fait que take care, my friend. Puis on se revoit dans 2 semaines, mon cher.
Salut.
Yes, sir. Bye-bye.